Donc si j'ai bien compris, la plupart vous avez fait le chemin de croix, donc vous inquiétez pas. Quand vous n'avez pas fait certains points d'une lection, vous prendrez de toute façon. Ce qui est génial, c'est que c'est l'évangile de Jean qu'on entendra dans l'office de la Passion, on s'y prépare. Vous prendrez votre temps de lection quand vous pouvez, et puis voilà. Alors du coup, on a pris pas mal de retard. Si ça vous convient, je vais maintenir la commande d'une heure, et puis ça sera un petit peu décalé. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs qui sont juste après. Ça devrait aller. Voilà, comme vous enchaînez beaucoup, je vous propose de prendre quelques instants en silence, de descendre dans notre cœur, d'habiter notre corps, de souffler un petit peu intérieurement et de se rendre chacun disponible au Seigneur, au Maître intérieur qui nous enseigne. Nous avons vu que les hommes ont rejeté la lumière et voilà ce qui remplit la coupe d'amertume que doit boire Jésus. Quand Jésus dit « Père, que cette coupe passe loin de moi », pourquoi cette coupe ? Cette coupe, elle est affreuse pour lui. C'est parce que dans cette coupe, il y a tout le nom des hommes à Dieu. Donc, ce n'est pas le Père qui remplit la coupe d'amertume. L'amertume de la coupe que doit boire Jésus, c'est tout le refus de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec l'amertume de nos coupes. Tous les hommes qui se sont fermés au don de Dieu depuis la création, depuis le péché originel, depuis ce premier nom qui a tellement fort marqué ensuite toute l'humanité, ce nom enraciné dans la méfiance de Dieu, ce nom qui est le doute sur la bonté de Dieu. Eh bien, tous ces noms, tout au long de l'histoire, ont un profond retentissement sur le cœur de Dieu. D'habitude, Dieu en lui-même, Dieu impassible, on ne voit pas que nos noms l'impactent, on ne le voit pas. Mais à partir du moment où Dieu s'est fait homme, eh bien, il nous donne à voir la blessure de son amour gratuit en termes de manque et de souffrance. Parce qu'il a pris une chair d'homme, on voit cet impact de nos noms, de notre nom contre notre Créateur, on les voit cette fois, parce qu'il a pris une chair. Et dans cette histoire d'homme, je vois à quel point mes noms à la bonté de Dieu impactent Dieu. Dans les blessures de Jésus, je peux regarder l'offense vécue par l'amour divin bafoué. Ce sont nos souffrances qu'il portait. La violence du nom des hommes qui remplit la coupe d'amertume, ben c'est la lâcheté de Pierre. Mais aussi toutes les lâchetés de toute l'histoire, mes lâchetés. Toutes ces trahisons à l'alliance que Dieu a voulu sceller avec les hommes. Toutes ces peurs qui font que je préfère rejeter la lumière quand il s'agit de sauver ma peau ou mon job. L'amertume qui est dans la coupe, ben, c'est la traîtrise de Judas. Et c'est aussi toutes les trahisons qui parsèment l'histoire des hommes, y compris les trahisons dont tu as été victime. Dans la coupe d'amertume, je trouve tous les manquements à l'amour, toutes les jalousies qui sèment la mort, toutes les violences contre l'innocent. Il y a la violence des grands prêtres qui se sont servis de leur pouvoir religieux à leur propre service. Et il y a tous les abus de pouvoir, toutes les formes de récupération, toutes les fois où je me sers des autres pour me faire mousser. Il y a la violence de la foule manipulée qui crie contre Jésus, crucifie-le. Et toutes les violences contre les petits qu'on manipule. Tous les cris des hommes contre Dieu, tous ceux qui veulent la mort de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y a dans la coupe d'amertume aussi, je vois, le désespoir de Judas et aussi tous les désespoirs des hommes qui n'arrivent plus à voir la vie comme un cadeau, qui ne veulent plus vivre, tous les refus de vivre, toutes les atteintes à la vie, tous les mécanismes autodestructeurs, toutes les formes d'anorexie, les refus de qui je suis, de comment Dieu m'a créé, mes dégoûts de la vie. Il y a l'orgueil monstrueux de l'homme qui croit pouvoir s'accomplir par lui-même et par là renonce bien tristement à ce que Dieu lui proposait. Il y a dans cette coupe d'amertume cet égoïsme congénital qui fait que nous blessons celui qui nous a créés pour la relation, pour la communion. Bref, dans cette coupe d'amertume que Jésus va boire, il y a tous les noms des hommes, tous mes noms. C'est une marée noire de noms qui atteint de plein fouet celui qui n'est que oui. Oui du Père, amen du Père. Alors, pour comprendre un peu comment nos rejets atteignent le cœur de Dieu, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est dans le même livre de Maurice Ravel. Une comparaison très belle avec le cœur d'une maman qui a un fils qui fait n'importe quoi. Et voilà ce qu'il dit. Car bien sûr, tant que son fils errait à l'aventure, tant que son fils dissipait sa vie dans le désordre, qui était frappé? Qui était déshonoré dans ses fautes, sinon sa mère? Sa mère qui était comme identifiée avec lui. Bien plus que lui, qui était dans son enfermement, bien plus que lui, elle sentait l'horreur de ses désordres. Bien plus que lui, elle était frappée par sa misère. Bien plus que lui, elle éprouvait sa déchéance. Et elle l'éprouvait d'autant plus qu'elle était innocente, pure. Elle était d'autant plus profondément déchirée que ce n'était pas pour elle. Elle était toute donnée, et c'est parce qu'elle était toute donnée qu'elle pouvait vivre son fils. Elle le vivait pour lui, en lui, avant lui, plus que lui. C'est cela précisément que fait Dieu. Il nous vit. Il nous vit en nous, pour nous, avant nous, plus que nous. Et c'est pourquoi il est frappé de tous les coups qui nous atteignent. Et c'est pourquoi il est victime de tous les maux qui se déchaînent sur l'humanité. Et c'est pourquoi il agonise dans toutes les agonies. Il meurt de toutes les morts. Comme il est blessé dans toutes les fautes. Il est toujours du côté des victimes et jamais du côté des bourreaux. Voilà, je pense qu'en effet, une mère peut nous aider à comprendre que Dieu souffre de toutes les atteintes que nous faisons aux membres de son corps, y compris quand nous nous atteignons nous-mêmes. Dieu, qui n'est qu'amour, souffre plus que nous, puisque lui, il sait la beauté de ce que nous sommes dans son dessein de créateur. Nous blessons la gratuité de l'amour divin en refusant ses dons, en nous en privant. Et en ce sens, nous sommes les blessures ouvertes du dessein bienveillant de l'amour divin en nous. Voilà, donc je voulais insister beaucoup sur le fait que cette amertume de la coupe ne vient pas de Dieu. Parce que nous, nous avons toujours l'impression que le méchant père envoie le fils au casse-pipe. Quelle horreur! Seigneur, guéris-nous petit à petit de nos images tellement fausses de Dieu. Cette amertume vient du non à Dieu et non de Dieu. Alors, deuxième petit point dans cette méditation sur la coupe, comment comprendre alors cette phrase de Jean 18, 11 « Rentre le glaive dans le fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ?» La coupe que m'a donnée le Père. C'est à cause de cette phrase, par exemple, on croit que Dieu est un Père affreux, qui fait boire des coupes atroces, qu'on va avoir plein de juifs, on dirait. La coupe que m'a donnée le Père. Vous savez que dans tout l'Ancien Testament, cette image est très importante. La coupe est ce que les pécheurs devront boire comme conséquence de leur péché. Cette image, c'était pour expliquer que on ne pourra pas pécher indéfiniment, impunément. Notre péché fait du mal. Il y a une destruction, il y a un mal objectif pour les autres, pour le monde. Et donc, il y a cette image de la coupe qui est que, à force de pécher, tu remplis une coupe qui, à un moment, elle va déborder, puis tu vas devoir la boire. Ça, c'est la logique normale. Si on fait n'importe quoi, comme le fils, ben, il y a un moment où on se détruit. Il y a une conséquence du mal. Et donc, les prophètes disent beaucoup ça. Ils disent, attention, tu vas boire ta coupe. Eh bien, le dessein de Dieu dans le Christ, c'est que cette coupe que devaient boire les pécheurs, le Christ va la boire pour nous. Ce n'est donc pas le Père qui fait l'amertume, mais c'est bien le projet du Père et du Fils, c'est-à-dire le projet de Dieu, de boire cette coupe avec tout ce qu'on a récolté par nos fermetures et nos égoïsmes qui ont une conséquence. Eh bien, comme nous, on ne sait pas s'en sortir, le Père, Jésus, va accepter de boire toute cette conséquence pour ouvrir un chemin de vie à l'intérieur de ce monde tellement marqué par les conséquences de nos péchés. Pour vivre cette transformation d'une coupe d'amertume immonde et non à Dieu, il va faire une coupe de communion. Et il n'y a que le Fils qui peut faire ça. Il est tellement relié à son Père qu'il va recevoir du Père pour boire tout ça et d'en faire le chemin de l'amour. Comme le Père Kolb, c'est affreux de se faire bunkériser. Mais il a cette puissance christique d'assumer cela, qui vient des nazis et non pas de Dieu, pour en faire un chemin de louange par la puissance de transformation du Christ qui nous permet de transformer en chemin d'amour même les choses les plus affreuses, les coupes. Ces lieux de rejet de Dieu deviennent dans l'histoire transformation christique, ils deviennent lieu de la révélation du plus grand amour. C'est pour ça que les histoires des saints nous touchent tant. C'est qu'à chaque fois, ils sont dans des situations impossibles, et c'est dans ces situations impossibles que du coup, ils deviennent des témoins que c'est pas possible d'avoir pardonné à ton bourreau qui t'a torturé pendant des années comme ça. C'est impossible, quoi. Et donc, ils nous montrent, en fait, les saints, ils nous montrent en énorme cette puissance de transformation, parce qu'ils ont mangé l'Eucharistie en vrai, eux. Voilà, le Père n'est pas la source de l'amertume, mais il est la source de l'amour qui va permettre de transformer cette coupe d'amertume en coupe du salut, en coupe de communion. Et moi, je ne suis pas le Messie, donc je ne vais pas avoir la souffrance de Jésus à Gethsémani, je ne vais pas la voir. Il n'y a que lui, parce qu'il est Dieu qui est impacté par toute cette souffrance du nom de tous les hommes, parce qu'il est le Fils de Dieu. Moi, j'ai ma part de souffrance, vous avez la vôtre. Bon, ça ne va pas en rajouter de dire oui à Dieu, mais je vais pouvoir vivre ma coupe, qui est à ma mesure, à partir de la coupe eucharistique, pour que Jésus porte en moi toutes ces difficultés et en fasse le lieu d'un chemin d'amour et de vie. Et on le voit bien dans tout le Nouveau Testament que vraiment, cette puissance de transformation, elle a un impact incroyable sur ceux qui disent oui. Vous voyez, par exemple, dans les Actes des Apôtres, Luc, il raconte l'histoire de Paul, l'histoire de Pierre, un peu comme des décalques de la vie de Jésus. C'est pour dire vraiment cette puissance de transformation. Pierre, Paul, à la suite de Jésus, parce qu'il laisse le Christ vivre en eux, ça fait des vies, des couples du salut. Voilà. Et donc, eux aussi, dans leur persécution, ils deviennent les témoins de cette puissance de transformation. Non, je ne répondrai pas au mal par le mal. Dans le Christ, tout le mal s'arrête, enfin, et un chemin d'amour jaillit du plus obscur. Et dans la vie des amis de Jésus, c'est pareil, normalement. C'est ce que nous demandons au Seigneur. Oui, vraiment, l'impact de la vie de Jésus sur l'humanité, dans ceux qui lui disent vraiment oui, est évidente. Jésus est mon transformateur. Jésus est mon transformateur par la foi. De la coupe d'amertume, de toutes mes petites coupes d'amertume, je veux boire à la coupe de communion avec celui qui a su transformer le refus de Dieu en oui. Il est l'amen du Père. Alors, je vous propose maintenant de regarder Jésus. Donc, tout à l'heure, ce que j'avais proposé pour la lection, c'était de regarder les personnages et le rejet de la lumière. Maintenant, ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder Jésus. Et pour cela, on va se mettre à l'école de cet incroyable témoin qui est Jean, qui, d'autres évangélistes, vont un peu plus raconter la douleur de Jésus. Vous voyez par exemple Marc, il va vraiment prendre le modèle des psaumes du juste persécuté, il va beaucoup insister sur la douleur, sur l'horreur, et c'est vrai, c'est vraiment vrai, il n'y a rien de trop. Jean, lui, avec son œil de d'aigle, il va nous montrer cette puissance de transformation. Il va dire, dans toute cette horreur qu'a si bien raconté Marc, je vais te montrer ce qui se joue. C'est la victoire de l'amour. Jésus est le roi d'amour. Il s'est bien fait martyriser, comme a bien raconté Marc. Mais dans ce martyr de la croix, Jésus est roi victorieux. Et donc c'est ça que je voudrais qu'on regarde un petit peu. Que dans ce lieu de l'horreur, de ce lieu de l'horreur, Jésus a fait le lieu de l'amour jusqu'au bout. Ça, pour montrer ça, c'est Jean, c'est le patron. Alors, première chose que je voudrais regarder avec vous, c'est que, donc là, je m'intéresse surtout à ce que je propose à votre lection pour juste après, c'est ce que j'ai appelé acte 3, c'est-à-dire c'est à partir du moment où Jésus est élevé sur la croix, donc c'est Jean 19, 16, jusqu'au verset 30. Alors, à partir du moment où Jésus est élevé sur la croix, on a cette scène où Jésus, où Jean va nous montrer il les aima jusqu'à l'extrême. Il va nous raconter la crucifixion, mais sa manière de le raconter, ça manifeste déjà que c'est le don, le don, le don, le don. Il les aima jusqu'à l'extrême. Et ça montre très très fort que tout est transformé. Alors, je vais prendre rapidement les scènes pour vous montrer un peu cette puissance de transformation. Donc, On commence par la scène du crucifixion, ça dure 2 secondes, il ne va pas du tout insister sur plein de choses, les moqueries, etc. En 2 versets, il nous montre Jésus crucifié, l'un à côté, il dit même pas que c'est des brigands, l'un de chaque côté, et au centre, Jésus. Commence comme ça le récit, donc tout notre focus, toute notre attention est sur Jésus, en croix, au milieu, dans une position royale. Dans cette position royale, Jésus va pouvoir commencer à faire ce qu'il avait prophétisé au chapitre 12, « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Je suis ce roi tout-puissant qui, en étant élevé, évidemment il y a un jeu sur le mot en grec aussi, il est élevé sur son trône, il est crucifié, c'est affreux. Puissance de transformation, il en fait un trône. Tous l'ont rejeté, il est le roi d'amour, le roi véritable. Il est dans cette position centrale, tous nos regards sont sur lui, parce qu'il va falloir que nous nous déterminions. Dans l'acte 2, on nous a révélé qu'il était le roi. Ecce homo, voici le roi, est-ce que c'est ton roi? Qu'est-ce que c'est le roi? Acte 2. Acte 3, il est dans la position royale. La question c'est, est-ce que tu veux te laisser rassembler par ce roi? Est-ce que tu veux le reconnaître pour ton roi? Celui qui ressemble si peu au roi que tu attendais. Deuxième petite scène, c'est la scène du Titulus, le titre. Aussi bien Pilate que les chefs des Juifs, tout le monde se fout de lui. Les Juifs disent, t'aurais pas dû écrire celui-ci est le roi des Juifs. Pilate, vous croyez qu'il veut mettre ce Titulus pour dire qu'en vrai c'est le roi des Juifs? Bien sûr que non, il fait ça pour humilier les Juifs. Les uns comme les autres, tous l'ont rejeté. N'empêche qu'à la fin, c'est marqué dessus, c'est le roi. Et c'est traduit dans les 3 langues pour que tous ceux qui pourront se laisser rassembler par ce roi soient atteints dans leur langue. Universalité de ce rassemblement. Vous voyez, tout est tout le temps retourné. Ce sont des méchants qui font ça. C'est nous tous. Mais Pilate dit à la fin, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est écrit, c'est comme une écriture. Cet homme, ce cadavre pendu à nous, c'est le roi. Et puis après, nous avons le partage des vêtements. À nouveau, c'est sordide et c'est normal, les soldats se partageaient les vêtements, c'est plutôt comme ça que ça se faisait, ok, on nous raconte ça. Mais Jean rajoute dans son récit, il y avait ces 4 qui sont, ils se déchirent les vêtements, là, c'est les hommes dans leur pitoyabilité, mais il y a cette tunique, ce qui était à même la peau de Jésus, qui signifie un peu toute sa personne. Et cela, on le reçoit par tirage au sort. Ça signifie symboliquement, ben, on va le recevoir de Dieu. Seulement, on ne peut que recevoir de Dieu en étant unis, ne la déchirons pas. Voilà le nous qui commence à s'unir de ceux qui vont recevoir cette personne de Jésus pour être revêtus de sa personne. Donc à nouveau, les soldats ne veulent pas du bien à Jésus, mais ce qu'ils font accomplit les Écritures. Tout est retourné. À travers tout ce rejet, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ils font ça pour que s'accomplissent les Écritures. Et puis juste après, on a la scène au pied de la croix où on a les 4 femmes et le disciple bien-aimé. 4 hommes, 4 païens, 4 soldats, 4 femmes, 4 juives, juifs et païens, hommes et femmes, tous sont déjà là au pied de la croix, comme une figure de ce rassemblement commencé par celui qui aime jusqu'au bout et qui veut nous introduire dans le royaume du seul vrai Dieu, du seul vrai roi qui est Dieu. Ces 4 femmes, elles, ça y est, on a enfin des personnages qui aiment Jésus. Et puis surtout, on a ces 2 personnages qui, à eux deux, le disciple bien-aimé et la mère que Jésus aimait, symbolisent au sens forme du terme, ça veut dire que en eux, il y a déjà toute l'Église de ceux qui vont accueillir le don de Jésus achevé. À nouveau, c'est ce roi qui rassemble. Il rassemble à sa famille selon la chair, avec sa maman, qui lui a donné la vie en vrai. Il rassemble ceux qui vont entrer dans cette famille qu'il est en train de créer. Femme, voici ton fils. Jésus est le fils unique, mais dans cette famille du fils unique, devenu chair, on peut rentrer si on accueille le don de la croix. Et enfin, cette petite famille qui commence, symbolisée par le disciple bien-aimé et la mère de Jésus. Eh bien, Jésus va créer sa famille en soufflant son esprit. Voilà le dernier don, le don ultime. Il a donné son titre, il a donné sa tunique, ses vêtements. Il a tout donné, il a donné sa mère, il a tout donné. Et tout ce récit, ça aboutit au verset 30. Alors Jésus livra l'esprit. On ne dit pas ça comme ça en grec. Ce n'est pas la manière de dire « il expira ». Jean, qui va tout le temps nous faire voir la fine pointe de ce qui se joue là, il dit explicitement « il livra l'esprit ». Cet esprit, c'est son esprit de fils qui passe vers le Père, son esprit qui est l'esprit du fils, l'amour entre le Père et le fils. Il le souffle sur cette petite communauté, le disciple bien-aimé, j'espère qu'on est tous des disciples bien-aimés, qui rentrons dans la famille de la mère de Jésus, en recevant cet esprit du Fils de Dieu. Voilà le sommet de son don. Tout ce que je vous ai dit, l'Esprit Saint le fera en vous. L'Esprit Saint fera de toi cet enfant de Dieu, cette existence tout à fait nouvelle, cet enfant de Dieu qui est appelé à vivre la vie même de Dieu. Voilà que Jean a donc raconté le récit de Jésus, de sa crucifixion, en montrant sans cesse le retournement et ce retournement de la mort à la vie, du rejet à l'accomplissement de tous les dons de Dieu. Cet accomplissement est donc l'accomplissement d'un acte d'amour parfait. Dans tout ce qu'on peut lui faire, Jésus répond par l'amour et du coup, il transforme toute cette horreur dans le lieu le plus fécond de l'histoire. C'est le lieu le pire, et bien ça devient le lieu le plus fécond de l'histoire. Et donc nous, dans nos lieux les pires, par la puissance de Jésus, il peut ouvrir que ça devienne un jaillissement, une source. Alors cette fécondité qu'on voit chez Jean, dès le récit même de la crucifixion, il se manifeste bien donc par ce thème du rassemblement, comme j'ai dit plusieurs fois, de la famille nouvelle, voici ton fils, et par le don de l'esprit. Donc vous avez vu aussi, vous continuerez à méditer en regardant ce récit, vous allez voir, c'est hyper frappant dans ce récit, c'est que Jésus ne subit pas toute cette violence. Il est profondément libre. C'est à chaque verset, vous allez voir ça. Jésus est profondément libre. Et ça, c'est l'amour. Ma vie nulle ne la prend, c'est moi qui la donne. Et donc, tout cette espèce de déchaînement de haine, de pantalon, là, les gens irascibles dont j'ai parlé tout à l'heure, Jésus, lui, il est profondément libre. Il en fait le lieu du don libre. Donc cette liberté, vous verrez que Jésus est vraiment souverain, c'est lui le boss. C'est vraiment la force de Jésus, c'est la force de son humilité, hein. C'est pas une force de roi selon le monde, mais quelle force! C'est la même force que Franz dont je vous parlais tout à l'heure, comme il faut être fort pour aimer jusqu'à l'extrême. Alors, vous verrez que quand je vous dis que c'est Jésus qui mène le jeu, par exemple la scène de l'arrestation, j'ai jamais marqué cette scène de l'arrestation chez Jean. Mais la scène où il va être pris, voilà comment ça se passe. Il arrive au jardin, et vous allez voir pendant tout le temps, c'est lui qui pose les questions, etc. Pourquoi je suis ici qui cherchez-vous? C'est lui qui pose les questions. Qui cherchez-vous? C'est le polar. Qui cherchez-vous? Je suis de la reine. C'est moi. En grec, donc, je suis ego ego. Et là, il tombe face contre. Vous voyez, la manière de raconter les gens, c'est une vérité très profonde. Il y a bien une scène d'arrestation, avec leur torche, tous ces gens-là. On fout. Mais la réalité, c'est que Jésus est Dieu. Ego et nous, je suis. C'est le titre révélé à Moïse. Je suis. Révélation de son amour au cœur de cette réalisation et au vide de la façon dont elle. Et tout est comme ça. Après, dans son interrogatoire, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? C'est plutôt lui qui pose des questions, c'est quand même fantastique. Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné, eux, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus. D'un côté, t'as le type, l'autorité, la force tranquille alors qu'il va bientôt se faire crucifier. L'autre, il est tellement sans consistance qu'il passe tout de suite aux mains, quoi. Donne une gifle à Jésus. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répondit, admirez cette puissance. Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Et voilà, on n'entend plus parler des autres. Et c'est lui qui parle. Et ce sera toujours comme ça. Un autre signe de sa liberté, c'est tout le temps, Jean souligne, Jésus sachant que l'heure était venue. Jésus savait qu'il allait le trahir. Jésus sait. Et c'est l'heure du Père. Tout ce qui est raconté accomplit les Écritures. Et tout ça, ce sont toutes les manières par lesquelles Jean nous fait découvrir cette puissante transformation de l'horreur à un don de soi éblouissant. Dernier petit point dans cette partie sur le truc, c'est sur la royauté. Je vous fais un tout petit film là-dessus, parce que c'est très beau. Donc, depuis le début de l'évangile, qui a appelé Jésus roi? Tout début, dans les tout premiers disciples, quand ils reconnaissent le Messie, parce que Jésus est tellement saisissant, les premiers disciples ils disent « Nous avons trouvé, c'est le roi d'Israël, le Messie, le roi d'Israël. » À ce moment-là, Jésus ne dit pas « C'est faux, d'ailleurs c'est vrai. » Le roi d'Israël, c'est vrai, c'est le Messie. Il dit pas c'est faux, mais il dit à tous ses premiers disciples, tu verras plus encore. Tu verras le Fils de l'homme et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, tes titres messianiques, ton attente messianique, c'est bien, ça te permet d'en accueillir, mais tu vas voir beaucoup plus. Et c'est la révélation dans tout l'évangile qu'il est carrément le Fils. Après, on retrouve ce titre de roi au chapitre 6, juste après que Jésus a nourri dans la multiplication des pains. Les gens veulent le prendre pour faire le roi, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'échappe. Donc Jésus n'accepte pas cette appellation de roi, parce qu'à ce moment-là, elle est trop ambiguë. On retrouve enfin au chapitre 12, Hosanna, Hosanna, au roi d'Israël. Jésus entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Dans les synoptiques, il est déjà rentré sur un âne. Là, chez Jean, c'est pas comme ça, c'est Hosanna, Hosanna, tout le monde l'acclame. Jésus, à ce moment-là, s'assit sur un petit âne et il entre pour que se réalise la prophétie d'un Messie, un homme est monté sur un petit âne. Donc Jésus dit, ok, vous m'appelez roi, mais tout de suite, il monte sur un petit âne et surtout, il entre. Ultimement, ce titre de roi apparaît de manière énorme, massive, à un endroit, c'est en Jean 18-19. Avant, le titre était trop dangereux. Par contre, au moment de la Passion, vraiment Jésus est présenté comme le roi, tout le temps. Et ce qui est dingue, avec cette puissance de retournement que j'essaie de vous raconter cet après-midi, c'est que tous les personnages disent qu'il est le roi, la plupart du temps pour se moquer de lui. Mais tous disent sans savoir plus que ce qu'il croit dire. Voici votre roi. Une fois qu'il est crucifié, voici votre roi. La question c'est, est-ce que tu reconnais cet homme comme ton roi? Oui, il est le roi qui fait régner Dieu, qui nous fait basculer dans la logique du royaume, qui est une logique non pas de puissance, mais d'amour jusqu'à l'extrême. Donc voilà ce retournement. Alors j'arrive à ma dernière partie. C'est vivre. Notre but, nous, maintenant, ce soir, aujourd'hui, c'est vivre un retournement, cette puissance de retournement en Jésus. Boire à la coupe eucharistique. Comment, dans ma vie aussi, pas que dans son histoire il y a 2000 ans, mais dans l'histoire de son petit membre de son corps que je suis, comment il va continuer cette puissance de transformation des ténèbres à la lumière? J'aurai trois petits points. D'abord, où est Dieu quand je souffre? Ça, c'est ce que nous allons pouvoir crier vers lui ce soir devant la croix. Si je veux vivre cette transformation, ben, je vais commencer par laisser mes cris. Parce qu'en fait, c'est quand même affreux. Le point de départ du passage, c'est plutôt les choses difficiles. Où est Dieu quand je souffre? Seigneur, donne-nous de découvrir, et je pense spécialement à ceux qui vivent de grandes souffrances, donne-nous de regarder que ma souffrance retentit en toi. Déjà, ma souffrance, elle va changer de couleur quand je vais me rendre compte que ma souffrance, elle fait partie de ce qu'il y a dans sa coupe, qu'il a bu pour la transformer en lieu d'amour. Seigneur, donne-moi de découvrir que tu as voulu m'y rejoindre, que tu as bien voulu boire cette amertume de ma vie. Il n'a pas vécu toutes nos souffrances en bloc. Il a vécu ma souffrance. Tu vis ma souffrance avec moi, comme la mère de l'enfant brisé, et tu ouvres un chemin. Seigneur, comment as-tu vécu cette souffrance? Jésus, apprends-moi le chemin. Je veux te suivre, derrière toi, avec toi. Ou plutôt en toi, parce que moi je ne peux pas. Voilà, découvrir que ma souffrance a un impact sur le cœur de Jésus, ça lui donne déjà une autre couleur. Deuxième petit point que je vous propose pour nous préparer au grand office de la croix, c'est le pardon. Le pardon comme lieu de prédilection pour vivre avec mon transformateur Jésus. Alors, d'abord, je prends conscience ce soir de combien je suis d'abord pardonnée. Parce que je suis aussi celle qui a mis des trucs dans la coupe d'amertume. Il faut quand même être honnête. Donc, dans la coupe, moi j'ai mis des trucs aussi. J'ai semé la mort, mes médisances, mes jugements, avec mes yeux, ma violence, mes colères, les choses que je n'ai pas dites, mes manques de courage, mes manques d'attention, mon enfant que je n'arrive pas à aimer comme il est, mes ingratitudes et mes tiédeurs de consacrer, mes refus de me donner à mon conjoint, mes infidélités, mes... Voilà, tout ça, je l'ai mis dans la coupe. Et lui, il a accepté d'arrêter en lui toute cette violence qui l'atteint et de répondre par l'amour. Donc déjà, ça c'est bouleversant, face à la croix. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Seigneur, tu as bien voulu boire tout ça, l'arrêter dans ton cœur pour me montrer ton amour. Il n'y a rien qui nous a séparés. Et puis, moi aussi, je peux reconnaître qu'on m'a offensé. Et moi aussi, unie à Jésus, en buvant la coupe de la communion, là où on m'a vraiment offensée, que ce soit réel et objectif, ou que ce soit ma souffrance, mon ressenti, en fait, à la fin, c'est quand même de la même manière que je vais le transformer spirituellement, eh bien, je peux choisir de ne pas répondre au mal par le mal. Je peux recevoir, d'entrer dans la logique du royaume, la logique de l'amour. Alors, c'est tout un chemin. Premièrement, accueillir cette lumière. Par exemple, je ne supporte pas cette personne. Donc là, la lumière, c'est que je ne suis pas dans l'amour pour le moment. Et puis ensuite, attendre d'un autre la puissance de transformer, la puissance d'aimer là où je ne peux pas. Et quand je dis « je ne peux pas », c'est le premier pas. Ben oui, je ne peux pas. Oui, j'ai été offensée. Et je voudrais accueillir cette puissance d'amour divine vécue dans un cœur d'homme auquel je peux me brancher, pomper cette puissance de pardon que je n'ai pas humainement. Si tu savais les trésors de mon cœur, si tu savais le don de Dieu. Vraiment, Seigneur, hors de toi, je ne peux rien faire. Je ne sais pas boire. Seigneur, donne-moi de cette eau qui jaillit de ton cœur transpercé. Encore une fois, on peut se nourrir de tous les témoignages de pardon. Moi, ça me bouleverse toujours beaucoup parce que ça se voit tellement à l'œil nu que c'est impossible à vue humaine. Voilà. Je pense à, si vous avez jamais vu, vous pouvez voir, c'est en accès libre sur YouTube. J'entrerai au ciel en dansant. Vous tapez ça, j'entrerai au ciel en dansant. C'est le témoignage d'un couple de frères et sœurs de la communauté d'Emmanuel du Rwanda qui sont morts martyrs au moment du génocide. Et en fait, c'est bouleversant pour les couples ce témoignage parce que Daphrose, elle a été trompée par son mari. Enfin, avant qu'il se convertisse, il a été horrible, quoi. Et il l'a trop maltraitée comme femme. Et en fait, par la puissance de l'amour unie à Jésus, elle a aimé, elle a été fidèle à sa vocation d'épouse, et ce gars-là est devenu un saint. Enfin, en tout cas, il n'est pas encore canonisé, mais il est en voie de l'être. Et en tout cas, il a une fécondité pour le Rwanda à l'essence. Et c'est vraiment, c'est dingue, c'est tout ça, parce que sa femme, elle s'est branchée au cœur de Jésus. Quelle puissance de transformation. Elle l'a pardonné, quoi. Enfin, je sais pas, je suis consacrée, donc je ne me rends pas compte, mais pardonner un adultère, c'est pas rien quand même. Bon, enfin. Voilà, désirer commencer un chemin de pardon, laisser le Seigneur être pour moi, en moi, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, dernier petit point. Donc le premier, c'était quoi déjà ? Où est Dieu quand je souffre ? La question du pardon, petit 2 et petit 3. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme. C'est pas un comme d'imitation, hein, sinon on est foutu, parce que pour aimer comme Jésus a aimé sur la croix, moi je laisse tomber l'affaire directement. Mais c'est un comme. C'est pas un comme d'imitation extérieure, c'est un comme d'engendrement intérieur. C'est mon fondement intérieur, c'est me brancher à la source, ce comme. Tu souffres parce que tu ne sais pas pardonner. Tu souffres parce que tu n'as même pas envie de donner ta vie. Tu n'as pas envie d'aimer Georgette, de supporter, parce que quand elle parle, c'est pas possible. Tu n'as aucun élan pour pardonner. Tu n'arrives plus à supporter ton enfant ultra-actif. Tu ne supportes plus que ton mari ne dise rien. Tu n'as plus envie de t'accrocher pour vivre la chasteté. Tu n'arrives pas à être fidèle à la prière. Tu es encore tombé dans la jalousie. Bon, tout ça. La question c'est, est-ce que ça m'étonne ? Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas. Hors de toi, je ne peux rien faire. Laisse-moi faire, Simon. Laisse-moi te laver les pieds, laisse-moi te purifier pour avoir part avec moi à cette puissance de transformation. Laisse-moi ouvrir le chemin, regarde-moi. Accueille la lumière sur qui je suis, sur qui tu es. Vois que tu ne peux pas. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tu vas vivre à partir de moi. À partir de ma liberté qui aime jusqu'au bout, à partir de la puissance de mon esprit répandue en ton cœur. Comme, ça c'est la clé de la vie chrétienne. Comme à la manière de Jean, comme en se branchant de l'intérieur. Par exemple, comment aimer mes ennemis? Aimer mes ennemis, c'est un oxymore. C'est-à-dire, si c'est mes ennemis, je les aime pas, quoi. Donc, aimer mes ennemis, cette phrase, rien que la phrase, elle est énervante. Donc, c'est pas possible sans Jésus, quoi. Donc, première étape, je ne peux pas l'aimer. C'est mon ennemi. Je ne peux pas l'aimer. Deuxième étape, Jésus, je ne peux pas l'aimer. Ah, ça change déjà tout. Jésus, je ne peux pas l'aimer. Déjà, si tu le dis à Jésus, tu le branches sur la... C'est le premier étape. Jésus, viens l'aimer en moi. Jésus, viens changer mon cœur de pierre. Jésus, viens... Je pose l'intention de ce pardon. Viens, fais le reste. Et au lieu de m'enfermer dans le dépit sur moi-même, j'apprends à me tourner toujours plus vite vers lui pour apprendre à aimer comme il a aimé. Et je le laisse être le chemin. Et la dernière étape, ce sera « Merci Seigneur ». Entrer dans une dynamique de louange et d'action grâce, une vie eucharistique, une vie qui remercie. Alors, pour terminer ce point sur aimer comme, l'amour des ennemis, tout ça, je voudrais dire un tout petit mot sur tant la joue gauche et tout ça là. Jésus est un homme fort. Jésus n'est pas menacé par le moindre relent de masochisme ou de mentalité victimaire ou sacrificielle. Jésus va aimer jusqu'au bout comme un homme fort, debout, puissant dans son humilité. Et pour revenir à France, c'est aussi ce qui me frappe. France, il y a un moment, les nazis le mettent par terre, ils le forcent à s'agenouiller, ils l'humilient, ils lui disent de s'asseoir, ils enlèvent la chaise. C'est eux qui sont pitoyables, c'est affreux. Et s'il est obligé de se mettre à genoux, il n'a pas le choix. Mais il est fort. Parce qu'on le force à se mettre à genoux, mais jamais dans son cœur. Jamais il se laisse avilir dans son cœur et dans sa conscience. Quelle force il faut. Alors voilà, France ne se laisse pas marcher dessus comme une serpillière. Il peut accepter de renoncer au plus grand bien, même sa vie de famille, l'amour de sa femme et de ses filles, puisqu'il va être tué. Pour être l'enfant de Dieu qu'il sait qu'il est, dans sa conscience. Pour être cet époux magnifique que Fanny aime, quelles que soient les circonstances. Vous voyez, c'est pas du tout pareil qu'une serpillière, en fait, ça. Il est plus digne d'être aimé d'elle que jamais. France aime comme Jésus aime. Il va jusqu'au bout de la lumière qui brille dans sa conscience. Il voit bien qu'il ne peut pas être époux et père au sein de cette famille merveilleuse. Il ne peut pas aimer comme époux et père là et être dans une indifférence totale pour tous ceux qu'il sait que Hitler va détruire, se moquer du sort de tous les hommes. Il a un seul cœur, une seule conscience. Sinon, il serait comme ces officiers qui étaient de charmants époux, mais qui dirigeaient des camps de concentration. Donc voilà, c'est tout le contraire d'une serpillière. Le chrétien n'est pas... Donc voilà, je dis ça parce que parfois je trouve qu'on comprend mal le coup de la joue gauche. Oui, le Christ va jusqu'au bout de l'amour, mais avec une liberté digne d'un enfant de Dieu. Donc les disciples de Jésus ne tendent pas la joue droite dans un sens moitié maso, moitié victime, moitié mépris de soi, mais à partir d'une étonnante force intérieure, d'une liberté intérieure de mettre un stop à la violence. C'est l'objet d'un discernement continu du disciple de Jésus. Voilà, dernier petit point. Donc après le pardon, l'amour des ennemis, mais l'amour comme. Et le dernier point, c'est l'obéissance filiale de Jésus et la grâce de consentir. Vraiment, Jésus, c'est pour ça que je suis partie de la coupe, Jésus nous guérit de notre opposition, ma volonté, la volonté de Dieu. Il y a vraiment, il faut qu'on se rende compte à quel point il y a quelque chose en nous, à cause du péché originel, qui déteste Dieu, qui croit que Dieu est un ennemi, qui va me castrer, qui va m'envoyer des tuiles. Et à cause de cette peur viscérale, on ne veut pas dépendre de Dieu et on veut faire notre propre vie avec nos propres forces. Alors je vous lis un petit passage de Maurice Zindel sur ça. On passe de la méfiance, on se protège de Dieu, au jaillissement du « je ». On découvre Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Ils soupçonnent qu'il y a derrière ce Dieu un mensonge, qu'on va les tromper, qu'on va profiter de leur ignorance ou de leur crédulité, qu'on va leur demander de l'argent, qu'on va leur voler quelque chose qui leur appartient et à quoi ils tiennent essentiellement. Ils ne peuvent pas soupçonner qu'il y a en eux précisément tout un univers, tout un mystère, tout un monde prodigieux, merveilleux, inépuisable, et que c'est justement de ce monde-là qu'il est question, dans la foi, d'un monde qui est en eux, d'un monde qu'ils ont à devenir, que c'est là qu'on veut les conduire. On veut les conduire à leur véritable personnalité, à leur véritable univers, à leur véritable réalité, à leur véritable moi. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Il y a entre eux-mêmes et eux-mêmes une distance infinie. Et c'est justement cette distance à soi-même, c'est parce qu'ils sont tellement loin d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait en eux une découverte à faire et qui est admirable, qui les comblerait de joie s'ils l'avaient déjà faite. Ils ne la soupçonnent pas. Et c'est pourquoi ils sont en défiance à l'égard de quiconque vient leur parler de Dieu. Voilà, dans cette puissance de transformation de Jésus qui a bu la coupe pleine de l'amertume qui ne vient pas de Dieu et la transforme en recevant de Dieu, de transformer tout ça en amour, nous pouvons recevoir, face à cette croix, la guérison de notre méfiance de Dieu qui ne veut qu'une chose, c'est nous faire passer dans cette extase divine, dans cette communion qui est ce pourquoi nous avons été créés. Voilà, donc une des grâces à demander aussi ce soir, c'est ça, cette grâce de consentir à ma vie, à ce qui m'est donné de vivre, comme le lieu où je vais pouvoir vivre la grande Pâque de ma vie. Consentir à ma vie, consentir aussi à la manière dont Dieu a voulu me sauver. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si simple, je trouve, face à la croix. On a aussi toujours dans notre cœur pourquoi tu fais comme ça quoi. Pourquoi tu fais comme ça enfin, fais autrement. Non mais c'est vrai quoi, c'est fou. Et donc de prier devant cette croix et de dire ben, Seigneur, c'est comme ça que tu veux nous sauver par ce mystère de ce grand passage où tu suscites notre liberté, où tu fais pas allez, on va plastiquer tous les terroristes, on va plastiquer les méchants là, on va virer la liberté de tous ces gens. Et on va faire un paradis sur terre, un messianisme temporel. Donc ça, c'est pas du tout comme ça qu'il fait. Lui, il vient à l'intérieur de nos cœurs, il vient susciter nos libertés. Est-ce que tu veux bien vivre cette grande transformation pour que le monde change ? Alors, je voudrais terminer en lisant simplement quelques petites prières pour ouvrir dans notre cœur la préparation à la vigile de ce soir, l'office de ce soir. Donc ce soir, on va toucher le bois de la croix dans la foi. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse déposer notre fardeau, ce que moi, j'arrive pas à porter, etc., pour vivre le grand passage uni à Jésus. En touchant cette croix, je vais lui donner mes désespérances, mes blocages, là où c'est pas encore passé de la communion d'amertume, de la coupe d'amertume à la coupe de la communion. Ça c'est ce qu'on va, d'ici la prière de ce soir, vous pouvez laisser monter dans votre cœur. quel lieu je peux habiter pour vivre cette grande transformation? Qu'est-ce que je dois lui demander parce que moi j'y arrive pas? Quelle désespérance aussi. Voilà. Et on va toucher le bois de la croix, notre corps, toute notre foi. Et puis vas-y Seigneur, fais-le toi-même. Seigneur, je veux déposer sur ta croix ma vie conjugale, mes difficultés à vivre jusqu'au bout dans le quotidien, cette communion qui pourtant fait toute ma joie. Je veux te laisser prendre toute ta place dans cette grande aventure du sacrement du mariage. Seigneur, sois la source de notre amour et à chaque difficulté, apprends-moi à puiser à la source d'amour de ta croix, toi qui as aimé jusqu'au bout. Seigneur, toi qui as pardonné à tes bourreaux, toi l'innocence mise à mort, je voudrais déposer sur ta croix ce pardon impossible à donner qui me ronge. Seigneur Jésus, je ne peux pas pardonner, c'est impossible. Mais ce qui est impossible pour les hommes est possible par la puissance de ta grâce. Je veux bien te déposer ce fardeau, ouvre la route, fais-le toi-même. Seigneur, je voudrais déposer ce soir, en touchant ta croix, cette désillusion sur ma vie, cette désespérance, tel aspect qui n'est pas ce que je souhaitais. Ce célibat, ces enfants qui tardent à venir ou qui ne sont pas venus, cette séparation, cette maladie, ce deuil qui m'écrase, cet apostolat qui ne ressemble pas à mes rêves. Seigneur, voici ma pauvreté. Seigneur, viens vite à mon secours. Je crois que tu ouvres un chemin de vie, de fécondité, de lumière. Tu fais toutes choses nouvelles. Par la puissance de ta croix, Jésus, viens à mon aide. De ta croix a jailli la joie pour moi et pour le monde. Seigneur, je veux accrocher à ta croix cette addiction aux écrans qui me coupe de l'intériorité ou de la pureté, en tout cas de la relation avec toi, ma source. Je sais maintenant qu'à chaque fois que je sentirai la force de la compulsion, je pourrai crier vers toi, « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Seigneur, je voudrais toucher ta croix pour puiser en elle la source de l'amour pour me découvrir aimable. Je veux croiser ton regard qui m'aime tant. Jésus, tout aimant, apprends-moi à m'aimer. Seigneur, je voudrais déposer sur ta croix mon égocentrisme, mon indifférence, ma tiédeur, mes petites habitudes étroites. Tu as prophétisé qu'une fois élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes. Seigneur, ce soir, en touchant cette croix, je te consacre ma vie pour que la bonne nouvelle de ton amour jusqu'au bout atteigne tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Que leur vie en soit transformée. Que ta vie donnée transfigure ce monde qui souffre. Seigneur, fais de moi ta flèche pour atteindre les cœurs. Je veux être ton petit instrument. Je veux me laisser saisir par la logique d'amour que tu as vécue jusqu'à la croix. Voilà, vous laisserez laisser jaillir votre propre cri, ce que vous voulez accrocher comme avec une punaise sur cette croix ce soir, en même temps que, en la touchant, vous recevrez la puissance de la croix, la victoire de la croix dans ces lieux où vous voulez passer. Alors, ce que je vous propose pour d'ici donc l'office, c'est donc de faire maintenant la lectio, enfin maintenant quand vous voulez, je sais pas, la lecture sur Jean 19, 16 à 30, donc l'acte 3 pour ceux qui ont l'affiche. Seigneur, nous te demandons la grâce de consentir, te demandons la grâce de recevoir le désir de répondre amour pour amour et de vivre de cette puissance de transformation de ta croix. Que ta parole nous éclaire, que ta parole le fasse en nous, et te demandons vraiment que ce temps qui nous sépare de l'office de la croix, nous puissions laisser jaillir du plus intime de nos cœurs ce avec quoi nous voulons ce soir nous approcher de ta croix. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus est le fruit.